La trilogie, c'est pas Star Wars hein, ce matin, mais ça aurait pu, mais je suis capable de tout. Hein. La trilogie, la première, c'était que trilogie sur Jude. Donc Jude, c'est un auteur du Nouveau Testament, juste avant la fin de la Bible. C'est l'avant-dernier livre. Donc le premier point, c'était que Jude recherchait des gladiateurs de la foi, que Jude était un profiler de au vol, et nous verrons un dernier point qui nous démontrera l'arme secrète du croyant. Donc, nous terminons cette fois le parcours de ce petit livre, ô combien choc, mais ô combien interpellant. Nous avons lu les deux fois précédentes que Jude invite ses auditeurs, les personnes qui réceptionnent la lettre, à être des gladiateurs de la foi, à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes par les apôtres. Car des faux chrétiens qui distillent un enseignement différent de ces apôtres se sont infiltrés dans l'assemblée. On ne connaît pas trop leur influence et leur discours, mais nous ressentons que le risque est grand pour qu'une partie puisse toucher le cœur de certaines personnes de l'Assemblée. Ils changent la grâce de Dieu en débauche, nous dit le texte, et ils renient ainsi notre Seigneur Jésus-Christ, reniant ainsi le centre de la foi chrétienne. La grâce en débauche et renie notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jude ne s'arrête pas à cette description du combat, il annonce aussi la condamnation de ces infiltrés, de ces faux chrétiens. Une condamnation terrible qui caractérise un mépris complet de Dieu et de Jésus. Mais Jude ne peut pas terminer sa lettre sans rappeler l'arme secrète que nous avons à notre disposition, nous les croyants, les combattants de la foi. Cette arme secrète a une puissance énorme, inimaginable, tant sur les combattants que sur les autres. Toutefois, au-delà de cette découverte, nous essayerons de trouver les outils ou les attitudes pour la rendre utilisable et efficace. Et nous verrons comment Jude veut que nous la mettions en action. Je vous invite donc à lire avec moi Jude 17. À 25. Jude 17 à 25. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions. Ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Les versets 17 à 19 concluent la description précédente sur les faux chrétiens. Ils sont là pour rappeler que Jude ne veut pas que ses auditeurs repartent seulement avec une conscience de la nécessité d'un combat et la condamnation de ces personnes. Il les appelle au souvenir de la parole des apôtres, qui sont là comme un édifice stable sur lequel la foi peut reposer et qui caractérise le vrai enseignement. La conclusion est terrible. N'attendez pas un nouvel enseignement génial qui sorte de nulle part. Au contraire, contentez-vous de fonder votre foi sur les paroles des apôtres. Versets 20 et 21. Mais vous, bien-aimés, construisez-vous sur votre très sainte foi, priez par l'Esprit Saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça y est, nous y sommes. L'arme secrète est déjà dévoilée, plus puissante que la bombe atomique pour le croyant, c'est l'amour de Dieu. Pour le petit Larousse, l'amour de Dieu est un mouvement de dévotion qui porte un être vers la divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Mais Jude va nous montrer une légère définition un peu différente. Car il ne s'agit pas, dans notre passage, de l'amour pour Dieu, mais de l'amour de Dieu pour les croyants. L'amour dont nous parle Jude ici est l'amour de Dieu pour les croyants dans l'Église. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Jude écrit avec tant de ferveur sa lettre. Après avoir décrit le combat, après avoir décrit la condamnation des faux chrétiens, il ne veut pas que les chrétiens prennent les armes et tuent ces faux chrétiens justement. Il désire qu'ils soient épris du même amour de Dieu pour son Église et pour ceux qui la composent. Malheureusement, aujourd'hui, l'amour ne veut plus rien dire dans notre pensée. Ce matin, je vous invite à considérer l'amour dans son seul cadre possible, à savoir la relation. L'amour est donc à comprendre dans le cadre de la relation que nous avons avec Dieu. Mais cela reste encore vague. Pour éclairer cette définition, j'aimerais vous citer ce que disait le psychologue américain Sternberg. L'amour profond est le fruit d'un équilibre parfait entre trois éléments, l'engagement, l'intimité et la passion. Si l'un ou l'autre de ces éléments vient à manquer dans une relation entre deux êtres, on peut certes parler d'amour, mais pas de la même façon, et en tout cas pas d'amour profond. Il semble donc que l'amour, selon ce psychologue, soit le fruit d'un équilibre difficile à obtenir. L'engagement, l'intimité et la passion sont pour ce psychologue l'alchimie de l'amour. Eh bien, nous verrons que l'amour de Dieu pour son peuple ne sera pas loin de cette définition. D'ailleurs, l'engagement est la source. Et c'est d'ailleurs ce que nous pouvons lire au verset 21. Gardez-vous, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Seul verbe à l'impératif dans toute la section. Tous les autres sont au participe présent. Il implique une action forte de l'auditeur. En outre, il touche au fait que la garde doit se faire sur soi-même. Ce verbe « garder, demeurer » est clé dans l'épître. Une fois de plus, il semble déterminant pour bénéficier de cet amour. Maintenez-vous, gardez-vous dans l'amour de Dieu. L'amour semble devoir faire l'objet de toutes les veilles, de toutes les attentions et faire l'objet d'un constant retour sur soi-même par rapport à cet amour de Dieu pour son Église, pour sa communauté. C'est un appel à chacun à la vigilance et à la persévérance. L'amour de Dieu pour nos frères et sœurs doit faire l'objet de toute notre attention et conditionner notre comportement. C'est l'une des armes secrètes les plus puissantes dans nos mains. Si nous avions conscience de sa puissance, nous serons des témoins efficace dans le monde. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes chrétien, disait Jésus. Comme une attitude sans cesse renouvelée, nous sommes invités à agir et à filtrer notre comportement au travers du filtre de l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est de la dynamite. Ça, c'est fort. Vous voulez voir des gens venir à Christ, Vivez l'amour fraternel. Vous voulez avoir de l'impact dans un monde, dans ce monde. Rien de plus que vivre l'amour fraternel. C'est notre arme secrète. Mais dans ce tableau, il y a un petit hic. Toujours. Cette arme secrète semble difficile à activer. On a du mal à la faire exploser. Il semblerait que le détonateur soit difficile à mettre en route. Jude nous donne les outils pour la mettre en route dans nos vies. Nous sommes sans doute sur l'un des passages les plus beaux du Nouveau Testament sur la vie chrétienne. Dommage qu'on ne le lit peu souvent. Mais vous, bien-aimés, construisant sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit Saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Les trois verbes qui tournent autour de la phrase « gardez, maintenez-vous dans l'amour de Dieu » sont tous les trois au participe présent. En vous construisant sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ces verbes sont là pour une question qui est assez simple, mais ô combien profonde. Comment pouvons-nous vivre l'amour de Dieu dans nos vies? Comme dans l'évangile de Jean que nous avons lu ce matin, Jésus nous amène à Jean 15 sur le comment nous pouvons vivre de l'amour de Dieu et vivre de son amour. La réponse est l'obéissance à ses commandements. Eh bien, ce matin, nous avons avec cette petite épître un magnifique petit résumé des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour expérimenter cet amour et pour travailler sur ce maintenir dans l'amour de Dieu. Vous construisant sur votre très sainte foi, l'amour ne peut être gardé ou maintenu que lorsque celui-ci est construit sur notre très sainte foi. Cette foi rappelle le message reçu des apôtres, car Jean l'explique, on demeure dans l'amour divin en ne s'écartant pas de l'évangile reçu avec ses paroles de salut et ses exigences de vie. L'amour de Dieu ne veut pas se vivre hors de l'enseignement des apôtres, hors de l'enseignement de l'évangile. Cette phrase est très étonnante, pourtant elle s'explique dans le contexte de Jude et notamment à propos de ses faux enseignants. Aucune nouveauté ne peut être introduite, si bien tentant que ça puisse être. Cette foi, cette doctrine libératrice est très sainte, puisqu'elle procède de Dieu, qu'elle révèle les perfections de Christ et qu'elle balise un chemin de sainteté. Et en cela, elle ne peut pas rester intellectuelle, sinon elle meurt très rapidement, sans porter de fruits. Combien d'exemples avons-nous de foi intellectuelle? Non, la foi est l'adhésion complète à un corps de doctrine et donc à Dieu lui-même. Mais cette foi nous oriente vers le principal, à savoir Christ, le parfait, qui nous ouvre un chemin pour vivre dans la pureté. Cela ne se fait pas tout seul et c'est avec vigueur que Jude indique qu'il doit faire l'objet d'une construction, d'un édifice, en construisant. L'exhortation de Jude est claire. Le fondement de notre foi, c'est Christ, sa grâce agissante pour une vie vécue dans la sainteté et la justice. C'est en cela que ce que nous devons construire. La vraie question ce matin est de savoir sur quel fondement avons-nous bâti notre vie. Est-ce sur Christ? Ou est-ce sur un ensemble d'autres choses qui nous poussent non pas vers Christ, mais vers nous? Les fondements pourraient être aussi variés que notre travail, notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre argent, notre maison, notre statut social, notre position dans l'église, nos amis, notre fiancé, notre santé, nos activités, les bonnes actions que nous pourrions faire aux pauvres. Chacun reconnaîtra la place de ces choses dans sa vie et le degré d'importance qu'il leur a mis, et surtout si une de ces choses est devenue le fondement de sa vie. Même si intellectuellement nous savons que Christ doit être notre fondement, l'est-il dans notre vie? cela conditionnera notre marche. Si le fondement est solide, la marche ne sera pas sans obstacle, mais elle sera affermie. Si le fondement est fragile, je dirais plutôt éphémère, que restera-t-il si celui-ci disparaît ? Tout ce que je vous ai cité peut disparaître. La construction sur ce fondement est là pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. Et cela, c'est notre source de joie. Au détriment de nombreuses satisfactions passagères, elle est la source d'une satisfaction exceptionnelle. Le comment pratiquement est assez simple à définir, mais un peu plus difficile à vivre. Nous devons jour après jour méditer la parole de Dieu pour la connaître et surtout pour la mettre en pratique dans nos vies. Le problème dans nos églises n'est pas un problème de manque d'information, mais un manque de mise en pratique. Et je parle pour moi d'abord. Soyons en constante construction, comme le temps du verbe construire, qui est au participe présent. Notre affermissement en dépend. Prions par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas seulement la construction de notre foi très sainte qui nous permettra de nous maintenir dans l'amour de Dieu, mais également une permanence de vie de prière, marquée par l'emploi du participe présent. Cette importance de la prière, et notamment de la prière par le Saint-Esprit, est présente si l'on conçoit la prière non pas nécessairement comme un exercice oral dans des cadres spécifiques, mais comme une orientation de notre être vers Dieu. On ne gagne pas seulement le combat contre un enseignement erroné par l'argumentation, mais aussi également par la prière. C'est pour ça que Jude fait ce point sur la prière. Mais au-delà de tout ce que je pourrais dire sur le sujet, une nouvelle fois, la prière, on pourrait dire le haut débit, l'accès à Dieu, est un moyen, un vecteur pour nous maintenir dans son amour. Le pourquoi de la difficulté dans nos vies semble difficile à expliquer. Beaucoup de pasteurs, j'ai mis, sont navrés par la vie de prière de leurs brebis. Mais la difficulté est là. La difficulté est même insupportable car souvent nous confondons la prière par nos propres forces avec la prière, avec l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, n'est pas accessoire, ni même superflue, elle est le cœur de notre vie de prière. Vous croyez faible dans la vie de prière, eh bien peut-être que vous n'avez pas considéré l'œuvre immense de l'Esprit dans cet exercice. En effet, cet exercice de connexion à un être céleste n'est pas chose aisée dans le quotidien. Il n'en demeure pas moins un recours de tout instant pour les gens qui sont en train de passer par une détresse énorme. La prière n'est donc pas en elle-même difficile, mais c'est la permanence de la vie de prière qui l'est beaucoup plus. Grâce à la prière par le Saint-Esprit, nous nous maintenons dans l'amour de Dieu. Mais comment intégrer cela dans notre pratique et dans notre vie ? Dieu préférera 10 minutes de prière par jour que 40 minutes de bonne action qui finiront par être sans l'amour de Dieu puisque justement pas alimentées par la prière par le Saint-Esprit. Sans la prière, notre vie s'éloignera tout doucement mais tranquillement du cœur de Dieu et nous éloignera de son amour. Si votre désir est d'aimer Dieu plus que tout, alors la prière ne sera plus une option parmi un programme lourdement chargé, mais notre priorité. Je ne sais plus la citation exacte, mais un auteur a un jour écrit « Quand je n'ai pas le temps de prier, je prie une heure. » Je veux nous encourager à refondre l'ordre de nos priorités dans une journée pour placer les choses qui nous permettent de nous maintenir dans l'amour de Dieu au premier plan. Si je fais le programme d'une journée, certains se rappelleront une vidéo. 6h30, je me réveille, plus ou moins difficile. 7h, je fais ma toilette. 7h30, je pars pour le travail. 7h45, je suis dans les transports. 8h, je commence le boulot ou les études ou le cours. 8h10, ça c'est pour moi, hein, je regarde les mails. 8h15, je fais la pause café. Ça, c'est pas vrai pour moi, mais... 8h30, je commence à travailler. 10h, je fais une pause. Et j'attends avec impatience que midi arrive. Midi, je vais déjeuner. 13h, je reprends le travail. 17h, je termine. 18h, j'arrive chez moi. Et je dois commencer à préparer le repas. Enfin, ma femme. 19h, je mange. 20h, je regarde la télé. 20h30, j'hésite à regarder un film ou à me reposer et discuter avec mes amis virtuels sur Facebook. 21h, je commence à être fatigué. 22h, je prends ma Bible et je prie juste, mais j'ai un peu de mal car je m'endors en la lisant. Où dans cette journée notre amour pour Dieu a-t-il pu être maintenu, alimenté? En fait, cette journée type peut être agrémentée de nombreuses autres activités qui sont parfois même des réunions de l'Église. Même si le temps passé à prier ne devrait jamais devenir une obligation, il n'en demeure pas moins l'un des moyens les plus efficaces pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. Bref, nous sommes tous invités ce matin par Dieu à redécouvrir nos priorités. Non une fois de temps en temps, mais chaque jour, à chaque instant, pour pouvoir être contaminé par l'amour de Dieu, être traversé par lui. Mais ce n'est pas tout. Jude nous invite à nous maintenir dans l'espérance de la compassion du Seigneur pour la vie éternelle. Nos faiblesses et nos chutes pourraient éventuellement susciter chez nous une inquiétude et un doute sur la capacité à arriver au terme. Mais Jude nous invite alors à regarder au Christ et à se souvenir de son immense compassion, de son immense amour, et croire qu'elle, la compassion, ou qu'il est tout suffisant pour nous valoir la vie éternelle. Le juste, celui qui sait résister aux sollicitations des faux chrétiens, ne peut compter à l'heure du jugement que sur la compassion du Seigneur. La vie éternelle ne peut qu'être un don gratuit de Dieu, un cadeau. Cette espérance bien placée non sur nous, mais sur la compassion de Dieu, nourrit ainsi une nouvelle fois le fait d'être maintenu dans son amour. Comme le dit le verset 24, « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir dans sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse. » Encore une fois, nous sommes gardés par Dieu. Nous maintenir dans cette espérance, c'est ancrer notre foi et la rendre solide. Elle nous donne une juste perspective pour notre vie. Mais Sam, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Considérer nos vies à la lumière de la vie éternelle et agir avec une attente active. C'est là encore une fois un grand défi pour nous chrétiens. Être conscient d'être en route pour la vie éternelle, ça nous sommes d'habitude conscients. Par contre, cultiver une attitude d'attente active avec en perspective la vie éternelle, cela est tout autre. La persévérance demeure une nouvelle fois le problème et l'enjeu de notre vie quotidienne. Cette attitude d'attente active devrait nourrir une nouvelle fois les décisions que nous prenons chaque jour. Aucune décision, tant pour notre travail que pour notre vie de couple, que pour notre vie d'étudiant, que pour notre vie de personne âgée, ne devrait avoir pour effet de nous éloigner de cette attente active de la vie éternelle. Le mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples devait faire partie de nos décisions quotidiennes qui placent en juste perspective notre vie sur la terre et l'éternité. Le salut des hommes et des femmes qui nous entourent, dans notre famille, auprès de nos amis, parmi nos collègues de promo ou de travail, avec les gens qui nous dirigent, devrait être constamment regardé comme la priorité de nos vies. Une nouvelle fois, nous ne sommes pas seuls, et même bien au contraire. Jésus-Christ et son amour sont là pour garantir que cette attente n'est pas vaine. Courons donc la vie avec la clairvoyance de cette persévérance atteinte, persévérante atteinte de la vie éternelle. La vie dans l'amour de Dieu en dépend toujours. Mais Dieu nous demande de nous maintenir dans son amour, pas pour nous regarder le nombril, mais pour tourner les regards vers nos frères et sœurs dans la foi. Verset 22, je l'invite à lire avec moi, versets 22 et 23. Je le lis dans une version ancienne. Ayez compassion de ceux qui hésitent. Sauvez-les en les arrachant du feu. Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. Darby interprète mal en rattachant le sauvez-les en les arrachant du feu au second groupe. Certaines Bibles identifient trois groupes de personnes dans ce passage. Toutefois, les manuscrits les plus fiables tendent à penser qu'il n'y en a que deux. Sans rentrer plus avant, nous identifierons donc deux groupes. Un groupe, verset 22 et début du verset 23, qui doit faire l'objet de la compassion parce que les membres de celui-ci hésitent ou doutent. Et ainsi, le désir puissant de l'auteur est qu'il soit arraché du feu. Un deuxième groupe qui doit faire l'objet d'une compassion, mais cette fois-ci mêlée de crainte, afin d'éviter toute souillure par leur comportement et leurs propos. Jude fait clairement référence aux faux chrétiens qui colportent une vie de débauche et des enseignements qui renient le Christ. L'amour de Dieu qui se déverse pour ceux qui hésitent ou qui doutent. Lorsqu'un grand effort est effectué pour nous maintenir dans l'amour de Dieu, cela change notre comportement vis-à-vis de nos frères et sœurs dans l'Église. Quand on reprend le mot « compassion », qui est ici très proche du mot « pitié », je vous invite à lire la définition du Larousse. Sentiment qui porte à compatir à la faiblesse d'autrui, à la considérer avec compassion, à le traiter avec une indulgence particulière. C'est vraiment le sentiment que Jude souhaite procurer chez les chrétiens. Lorsque l'amour de Dieu se déverse dans nos cœurs, il ne peut que déborder pour nos frères et sœurs qui sont en train de douter peut-être de leur foi, car ils sont jeunes chrétiens, ou comme dans le cas de Jude, ils semblent déroutés par les enseignements de ces faux chrétiens. Nous devons avoir un amour pour nos frères et sœurs qui désire les éviter de la chute et du feu éternel. Dans l'Église, il y aura toujours des chrétiens mal affermis qui seront toujours sensibles aux idées des faux chrétiens. Il ne reste plus qu'à ceux qui sont immergés dans l'amour de Dieu d'être ces personnes qui les arrachent à leur évitation et au feu, qui pourraient être leur fin si ceux-ci s'attachaient à des enseignements erronés. C'est cela l'amour de Dieu. Un amour qui a compassion de l'autre avant d'avoir compassion de soi-même. Je ne peux pas m'empêcher de vous illustrer cela, et notamment le fait que cette attitude devrait consumer nos êtres. Je pense toujours à mes enfants, à l'amour que je porte pour eux. Tout mon désir est de les voir prendre une assurance en Dieu et non des hésitations et qu'ils soient arrachés au feu. C'est pareil pour nous. Nous avons tous dans la famille spirituelle des gens qui hésitent et qui pourraient tomber. Ils semblent proches de Dieu mais aussi à l'écoute d'autres voix. Ayons ce cœur qui brûle, qui se consume pour ces gens qui sont en proie au doute et à l'incertitude. Ne lâchons aucune occasion, c'est notre mission. Nous parlons des missionnaires les deux dimanches derniers, mais nous sommes en quelque part aussi des missionnaires dans notre Église. Aimer sans relâche, comme fruit de l'amour de Dieu dans nos vies. Arrêtons de regarder nos problèmes, mais ayons compassion des problèmes des autres dans l'Église. Arrêtons de parler de nous-mêmes pour poser des questions sur autrui, sans considérer cela comme un échappatoire pour nos problèmes aussi. C'est ça le vrai amour fraternel, en action, qui vient d'en haut et qui va vers nos frères et sœurs. Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. Nous sommes obligés de recontextualiser la situation. Jude est en train d'écrire à l'Église et de l'encourager au combat pour la foi transmise une fois pour toutes. Car certaines personnes vivent une vie de débauche et justifie cela par un enseignement qui renie Christ. Jude encourage donc cette fois-ci à une attitude toujours et encore dirigée par l'amour, mais mêlée de crainte, car la souillure est attachée à leur vie et à leurs propos. Cette attitude exigée aux chrétiens ne concerne pas nos relations avec les personnes qui ne sont pas croyantes, mais l'attitude avec les pseudo-chrétiens, les faux, les infiltrés, comme les appelle Jude. Jude demande à chacun d'exercer une compassion accompagnée d'un discernement qui évite avec sérieux toute contamination. Le risque est grand, c'est d'ailleurs pour cela que Jude a écrit sa lettre. Jude ne se fait que peu d'illusions sur la volonté de changement de ces personnes. Toutefois, il désire que les vrais croyants exercent leur amour envers eux. Soyons vigilants en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à croire que nous sommes dans le monde des bisounours, même dans l'Église. Nous devons avoir un amour plein de discernement, et cela, nous devons l'exercer avec constance. L'arme secrète des combattants est dévoilée par Jude. C'est l'amour de Dieu pour le croyant. Elle est belle, magnifique, comme un joyau précieux. Elle doit faire l'objet de toute notre attention et de toute notre concentration. Nous devons nous maintenir dans celui-ci pour ne jamais quitter la vraie grâce de Dieu, ce vrai cadeau de Dieu pour nous et l'œuvre merveilleuse du Christ à la croix pour nous. Mais les faits sont là pour nous montrer que nous avons beaucoup de mal à activer dans nos vies cette arme secrète. Pour cela, Jude nous donne trois outils clés ou attitudes clés, vous construisant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit et attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ces trois outils, attitudes, ne sont pas facultatifs pour nous maintenir dans l'amour de Dieu, pour nos frères et sœurs. Ils ne sont pas facultatifs. Jude nous invite à les revisiter et à les considérer comme une priorité constante pour nos vies. Jude nous invite à les revisiter, à les considérer comme une priorité pour nos vies. Cet amour de Dieu vise un but merveilleux. L'amour de Dieu vise les autres. L'amour de Dieu qui se déverse pour ceux qui hésitent. L'amour mêlé de crainte qui ne supporte pas la souillure. Aujourd'hui, une question nous est posée. Notre arme secrète est là, entre nos mains. Mais est-ce que nous l'avons activée au travers d'un affermissement de notre très sainte foi dans la méditation, la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, au travers d'un temps régulier de prière par le Saint-Esprit, ou au travers d'une atteinte active de la vie éternelle. Si ce n'est pas le cas, alors nous devons revoir toutes nos priorités. Cela aura un impact énorme chez nos frères et sœurs, et donc par ricochet autour de nous. Est-ce cela que nous désirons vivre ? C'est à nous de voir, à nous seuls.